Oh mon Dieu. Elle ressemble à sa mère.
From what I understand, you knew Vicky was dangerous. This feels like it could have been very preventable. And I just want to know, why did this happen?
C'est une question difficile. Je ne savais pas que Vicky était capable de ça. Sache que si j'avais eu le moindre doute sur ses intentions, je l'en aurais empêché. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Notre avenir a été gâché par un monstre. Arrêtez, j'ai besoin d'une pause. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Je ne savais pas qu'elle ferait ça.
What I need you to do is be upfront and be honest with me and tell me what happened.
Sir, I don't know a thing about it. I'm telling you the honest truth. I don't know a thing about it.
C'est une certitude. Vicky était un monstre.
If you're a cold-blooded killer, sweetheart, I have no problem putting you in prison for the rest of your life. I can look you in the eyes and tell you that.
Calling her by l'appeler par son nom, c'est lui témoigner trop de respect. Quand je parle d'elle, je dis 62794.
Her prison.
Son matricule de détenu. Je suis content que 62794 soit derrière les barreaux. Elle est à sa place. Elle ne sera jamais libérée. Jusqu'à ce que le diable l'emporte en enfer. C'est Vicky, moi, mes deux enfants et son fils. C'est à cette époque qu'elle a commencé à montrer son vrai visage. On fait tous semblant d'être heureux pour ne pas énerver Vicky. Si je pouvais parler à ce jeune homme, je lui dirais de partir sur le champ, de s'en aller, que ça ne marchera pas. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Vicky Easterbrook à l'hôpital où je travaillais. Vicky était infirmière et j'étudiais l'inhalothérapie. Elle avait l'air gentille. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bon, qui voulait vraiment apprendre à me connaître. On s'est raconté d'où on venait. Mon premier mariage était voué à l'échec. J'avais 18 ans la première fois que je me suis marié. Vicky aussi avait été mariée. Ça n'avait pas marché. Elle avait un fils. À ce moment-là, il avait 4 ans. Vicky savait écouter. Elle semblait avoir beaucoup d'empathie. Avec le recul, si je pouvais revenir en arrière et changer quelque chose, je m'enfuirais. On commençait à peine à sortir ensemble. On avait eu 2 ou 3 rendez-vous. À ce moment-là, je ne considérais pas qu'on était en couple. Mais au cours d'un long week-end, je suis allé à West Yellowstone, dans le Montana, avec des amis, histoire de passer quelques jours avec eux. En rentrant chez moi, ma mère m'a dit, « Tu connais une certaine Vicky ?» Je lui ai dit que oui.
I wouldn't say she's my girlfriend. We went on a couple of dates.
Elle m'a dit qu'elle avait appelé plusieurs fois pour savoir où j'étais et avec qui, et qu'elle avait été insistante. Je lui ai demandé ce qu'elle lui avait répondu. Elle m'a dit qu'elle ne lui avait rien dit, à part qu'elle me dirait de la rappeler quand je rentrerai. C'est la première fois que j'ai vu le côté possessif de Vicky. Quand j'ai revu Vicky à Boissy, elle n'était pas vraiment accusatrice. Elle était plutôt agréable.
My mother said that she called looking for me.
So what?
Je lui ai demandé où elle avait trouvé le numéro de mes parents. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait essayé tous les Jensen de l'annuaire. C'était bizarre. J'ai eu la sensation qu'on violait mon intimité. Et ça ne m'a pas plu. Je ne lui devais rien. Ce n'était pas ma petite amie, nous n'étions pas ensemble. Nous n'étions pas en couple. Et là, elle est devenue sérieuse et elle m'a dit « Mais si, tu es mon petit ami, on est ensemble. » Il y avait quelque chose d'étonnant, mais je n'ai pas trouvé ça inquiétant à l'époque. Je n'avais que 20 ans. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les gens, et encore moins avec les filles. Je me suis dit que je devais vraiment lui plaire. Avec le recul, c'était la première alerte. Plus tard, j'ai compris que lorsque Vicky voulait quelque chose, elle l'obtenait. Et ce n'était pas négociable. C'était compliqué de trouver un emploi dans mon secteur à Boissy. Il n'y avait pas de poste à plein temps.
So how's the job search going?
Good.
Juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un poste à plein temps à Twin Falls, dans l'Idaho. Alors j'ai décidé de déménager.
So what is this about?
I'm moving to Twin Falls.
Elle l'a mal pris. Elle m'a dit, pourquoi, tu as quelqu'un d'autre là-bas? Il y a une autre fille?
So who is she?
Who's who?
Slut you're moving for!
Je lui ai dit, non, ce n'est pas ça. Je déménage parce qu'il me propose un emploi à plein temps. Donc, moi, j'y vais. Toi, tu restes ici. On pourra peut-être se voir de temps en temps. Elle m'a répondu, je démissionne, je viens avec toi. Je n'ai pas su comment réagir.
Moving in the middle of the square will be tough, but
elle me plaisait. Alors je me suis dit que ça pourrait peut-être marcher. Peut-être que c'était bien qu'elle vienne avec moi et qu'on soit ensemble.
You know what? I think this will be good for us.
Je n'ai pas compris que ce n'était pas normal. Je n'ai compris que plus tard ce que je représentais pour elle. Je n'étais pas l'amour de sa vie. J'étais un bien qui lui appartenait. Quand Vicky et son fils ont emménagé avec moi, j'ai pu mieux le connaître. La première fois que j'ai rencontré le fils de Vicky, j'ai remarqué qu'il avait des traces de brûlures sur les jambes, qui allaient des genoux jusqu'aux pieds. Ça avait l'air extrêmement douloureux. Vicky m'a donné une explication. Elle m'a dit qu'elle lui donnait un bain et que le téléphone avait sonné, ou c'était la porte, je ne me rappelle plus. Elle l'a laissé quelques secondes pour répondre au téléphone ou à la porte, et quand elle est revenue, il avait allumé l'eau chaude. L'eau chaude devait être réglée à une température très élevée. Elle m'a dit que c'était comme ça qu'il s'était brûlé les jambes. J'ai trouvé ça horrible. Mais j'y ai réfléchi et ce qu'elle m'avait raconté ne tenait pas la route. Je me suis dit, s'il y avait déjà de l'eau dans la baignoire, pour qu'elle devienne assez chaude au point de le brûler, il aurait fallu qu'il laisse couler l'eau très longtemps. Je lui ai dit que son chauffe-eau devait avoir été réglé sur une température thermonucléaire.
Oh, I'm sorry. Are you the expert on water now?
Well, no, I understand.
Ça l'a vraiment énervé. Ce n'était pas un sujet à aborder avec elle.
Do you think that I did this?
No.
Elle m'a dit, de quoi tu m'accuses? Tu crois que j'ai fait du mal à mon fils? Non, je n'ai jamais dit ça. On discute et j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé.
I just want you to calm down, okay?
You want me to calm down?
That's not the words
I meant.
You
want me to calm down?
I didn't mean...
You know what? No, you don't...
Elle m'a dit, ce qui s'est passé, c'est ce que je viens de t'expliquer.
Okay.
D'accord.
Listen to me. What I do with my son is my business.
Je n'ai jamais eu la confirmation de ce qui était vraiment arrivé. Je n'ai aucune preuve et je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit. Mais c'était suspect. Je pense qu'elle était en colère contre lui et qu'elle l'a puni. Ça correspond tout à fait à sa personnalité. Si les gens qui l'entouraient, qu'elle considérait comme lui appartenant, ne faisaient pas ce qu'elle voulait, elle leur faisait du mal. Lorsque mon divorce d'avec ma première femme a été prononcé, Vicky a décidé qu'on allait se marier. Ça a été très pragmatique, voilà ce que je dirais. À l'époque, je n'ai pas pensé que je faisais une erreur. On habitait ensemble, on vivait comme un couple marié. Je me suis dit que c'était la chose à faire. J'avais décelé son mauvais tempérament, mais je n'avais pas vu son côté sombre. Elle ne l'a révélé qu'après notre mariage. On avait décidé de construire une clôture pour protéger les chiens de la route. On habitait le long d'une route passante. On ne voulait pas que nos chiens se fassent écraser. Alors je suis allé acheter du matériel. J'ai déchargé les piquets en métal et le grillage. Et j'ai tout préparé pour commencer à construire la clôture. Elle est sortie. Elle a regardé le grillage et elle a explosé. Pourquoi tu as acheté ça? Ce n'est pas ce qu'on avait dit. On s'était mis d'accord. Tu es bête ou quoi?
Weren't you listening to me? What are you, a moron?
Quand Vicky s'énervait, son visage devenait tout rouge et ses yeux semblaient vous transpercer. Et puis, elle s'est mise à me bousculer en me disant que j'étais un imbécile. Je l'ai arrêtée en lui disant qu'elle allait trop loin.
This is ridiculous.
It's just a fence. Don't act crazy.
It's not just a fence. Don't you call me crazy.
Et puis elle a... C'est sorti de nulle part. Je ne m'y attendais pas. Qui aurait pu s'y attendre? Et puis, elle s'est mise à éclater de rire et à me traiter de chochotte. Qu'est-ce qu'il y a, chochotte? Alors, tu ne vas pas te défendre? Tu ne sais pas te battre? C'était la première fois qu'une femme me frappait. Et je n'ai pas su comment réagir. On m'avait appris à ne jamais taper une fille.
You're pathetic.
Après m'avoir frappé, elle m'a regardé pendant une seconde. Et puis elle est repartie dans la maison. Je crois que c'est là que j'ai pris conscience d'avoir fait une erreur. La colère de Vicky a commencé à se voir. Et elle s'est immiscée dans notre vie quotidienne. Mais à chaque fois qu'elle s'énervait et qu'elle me frappait, je me disais, bon, j'ai déjà divorcé une fois. Cette fois, il faut que ça marche. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle était folle. Je pensais que ça venait aussi de moi, que je faisais des choses qui la mettaient en colère ou qui l'énervaient. Et je me disais que si je parvenais à adapter mon comportement, notre relation pourrait s'apaiser. La vie avec Vicky n'était pas facile. C'était comme vivre avec un baril de poudre. C'était une bombe qui risque d'exploser à tout moment. Un jour, on avait acheté de la charcuterie dans une épicerie. Je n'aimais pas trop leur roast beef. Elle l'aimait bien, mais moi non. On avait acheté de la dinde, du jambon et du fromage, entre autres choses. Et je lui ai demandé de ne pas mettre de roast beef dans mon sandwich, parce que je n'en voulais pas. Elle m'a donné mon sandwich. Il y avait du roast beef dedans. Je n'ai rien dit. Je suis allé près de l'évier et j'ai retiré les tranches de roast beef de mon sandwich. Je lui tournais le dos pour faire ça. Et tout d'un coup, un couteau m'est passé juste à côté de la tête et est allé se planter dans le placard. Elle m'avait lancé un couteau. Je me suis retourné et je lui ai dit « Mais ça va pas, non ? Tu viens de me lancer un couteau. Ça va pas bien ?» Je ne sais pas si c'est vraiment moi qu'elle visait et qu'elle a manqué. J'ai pris ma voiture et je suis allé dormir à mon bureau cette nuit-là. J'avais l'impression de lui appartenir, d'être son punching ball préféré. J'ai supporté beaucoup de choses pendant longtemps parce que j'avais envie que ça marche. Je m'y étais habitué. En tout cas, c'était ce que je pensais. Vicky avait l'impression d'avoir le pouvoir de contrôler les choses. Et non seulement le pouvoir, mais le droit de les contrôler. Mes deux enfants, nés d'une précédente union, vivaient avec mon ex-femme. Un jour, on a reçu un courrier nous disant que ma pension alimentaire allait augmenter. Je l'ai dit à Vicky. Et elle a explosé. Elle hurlait qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Elle a dit, « Cette garce ne fera pas augmenter ta pension. On n'a pas les moyens. Je vais m'en charger. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a répondu, « Je crois que je sais comment tuer quelqu'un. » Elle a dit, « Une overdose d'insuline. Il faut l'injecter entre les orteils. Il ne regarde jamais à cet endroit. Si on injecte là, personne ne saura. » Je pensais qu'elle disait n'importe quoi. Je ne me suis pas dit qu'elle était capable de tuer quelqu'un. Peu de temps après, à peine 4 ou 5 jours plus tard, elle m'a dit « Il faut que tu ailles chez tes parents pour que quelqu'un puisse attester que tu étais là-bas. » Je lui ai demandé pourquoi j'irais chez mes parents. Et là, elle a sorti une seringue et de l'insuline. Et elle m'a dit « Vas-y, je m'occupe de tout. » Elle voulait aller tuer mon ex-femme. J'ai dit non. Non, non, non. C'est la première fois que je lui ai tenu tête. Je lui ai crié dessus. Mais pourquoi tu ferais une chose pareille? Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas de mal à mon ex-femme. S'il lui arrive quelque chose, je te dénoncerai à la police. Elle m'a lancé un de ses regards. Comme si je l'avais trahi, que j'avais choisi l'autre camp et qu'elle me le ferait payer. Elle m'a dit, tu n'es qu'une chiffre molle. Tu n'oses pas lui tenir tête, ni à elle, ni à personne. Je lui ai pris l'insuline et les seringues des mains et je suis parti. Je les ai jetées dans une benne à ordures que j'ai trouvée derrière une épicerie. J'ai envisagé d'appeler la police. Mais je me suis dit que ce serait sa parole contre la mienne et que ça empirerait la situation entre nous. Je crois que c'est là que j'ai vraiment compris que j'avais des ennuis. J'ai rencontré Diane dans un cours que je donnais dans une maison de repos où elle travaillait. Son vrai nom était Aletta Diane Ray. Elle était très belle. On a commencé à discuter entre les cours. C'était quelqu'un de très intelligent, très charitable et très compatissant. J'ai trouvé mon âme sœur en elle. C'est devenu ma meilleure amie. On s'est rendu compte qu'on avait des vies similaires, dans le sens où elle n'était pas épanouie dans son couple. Et je lui ai expliqué ma situation.
You wouldn't believe some of the things that she does.
Diane m'a aidé à retrouver de la dignité. Elle m'a fait comprendre que je n'avais plus besoin de Vicky, que je n'étais plus obligé d'endurer tout ça. Alors j'ai fait mes valises pendant qu'elle était au travail et j'ai déménagé. Je ne savais pas qu'elle allait me traquer et qu'elle finirait par me retrouver. J'ai entamé la procédure de divorce. J'ai pris un avocat. J'ai commencé à lui verser de l'argent. J'ai dû faire des heures supplémentaires le week-end pour financer tout ça. Et qui est-ce que je vois sur le parking de l'hôpital un matin, après avoir travaillé toute la nuit? Vicky m'attendait. Je lui ai demandé ce qu'elle fichait là. Elle m'a dit, il faut que tu reviennes, rentre à la maison. Mais je ne voulais plus être son prisonnier. Je lui ai dit non, c'est terminé, je ne reviendrai pas. C'est fini, tu entends? Tu entends ce que je te dis? Tu vas te mettre ça dans le crâne? C'est fini. Tu vas enfin le comprendre? Pardon.
Vicky, stop!
Listen to me, Vern. You are mine.
Elle s'est énervée. Elle a dit qu'elle ne croyait pas au divorce, qu'elle n'accepterait jamais de divorcer. Jamais. Elle m'a dit, divorcer? Jamais. Tuer? Peut-être. Elle était sincère. Quand Vicky a commencé à venir à mon travail, j'ai acheté quelque chose pour la première fois de ma vie. Un pistolet que je portais sur moi. Si elle voulait me tuer, très bien. Mais je ne comptais pas me laisser faire. Deux mois et demi plus tard, Diane et sa fille Jade ont emménagé chez moi. Jade avait presque 4 ans. On s'était fiancés. J'avais demandé Diane en mariage.
Vern!
What is it?
It's her, she's here.
What?
Quand Vicky a découvert que je vivais avec Diane et qu'on était en couple, elle a trouvé notre nouvel appartement. En ouvrant la porte, j'ai vu Vicky et l'ex de Diane. Et j'ai compris qu'ils allaient nous créer des ennuis. Mon pistolet était dans l'appartement, mais il était sous clé. On ne s'attendait pas à la voir chez nous. Diane avait très peur de son ex. Elle est allée se cacher au fond de l'appartement et elle a appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit de partir, de m'éloigner d'elle le plus rapidement possible. Si elle voulait me tuer, très bien. Je ne savais pas comment elle comptait s'y prendre. Je leur ai dit que s'il m'arrivait quelque chose, ils sauraient qui chercher. Je pensais qu'elle s'en prendrait à moi. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Le matin du 9 septembre 1999, je suis parti vers 6h45. Je devais revenir les chercher vers 11h parce que je devais aller à Sun Valley, dans l'Idaho, en voiture. Et Diane et Jade devaient m'accompagner. J'ai essayé de l'appeler une première fois pour la prévenir que j'étais en chemin. C'est Jade qui a décroché. Je lui ai dit, « Salut Jade, comment ça va? Tu peux me passer ta maman ?» Elle m'a répondu, « Maman dort. » Je lui ai dit d'aller la réveiller. Elle m'a dit, « Non, maman dort et elle a du rouge à lèvres violet ou bleu. » Je n'ai pas compris. C'était une enfant à l'époque. Je lui ai dit, « Dis-lui que j'arrive et qu'il faut qu'elle se prépare pour qu'on puisse partir. » D'accord. Et elle a raccroché. Quand je suis rentré, Jade était devant la télé. Elle m'a redit, « Maman a du rouge à lèvres violet. Elle a du rouge à lèvres bleues. » Je suis entré et... Pardon. Pardon, c'est plus dur que ce que je pensais. Je suis entré dans la chambre. Diane était allongée sur le ventre. Je l'ai secouée. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on y aille. Elle était froide. Elle était froide. Je l'ai mise par terre. J'ai appelé les secours. Et j'ai commencé le massage cardiaque. L'opératrice me posait des questions. J'essayais de lui répondre. Je lui ai dit, elle est morte. Ma fiancée est morte. Et elle m'a dit de lui faire un massage cardiaque. Je lui ai dit que j'étais en train de le faire. Elle m'a demandé si elle respirait. J'ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Puis l'ambulance est arrivée. Je suis allé la rouvrir. Ils sont entrés. Je me suis assis dans un coin du salon. Et j'ai pleuré. Je ne savais juste pas quoi faire. C'est Diane. Diane avait fait une séance photo. Elle était tellement gentille, tellement douce. Elle rendait la vie des gens qui l'entouraient plus belle. Diane avait cette capacité à aimer les gens. Elle m'aimait. Elle m'a donné la force dont j'avais besoin. Elle m'a montré que je n'étais pas le bon à rien que Vicky me faisait me sentir. Diane m'a redonné confiance en moi. Je revois la dernière fois que je l'ai vue vivante en regardant ses yeux. Et j'entends « Je t'aime, chérie ». Je suis content que ce soit la dernière chose qu'on s'est dite. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir causé ça. Je suis désolé. Je t'aime. Quand Diane est morte, la police m'a dit qu'elle avait fait une overdose de méthamphétamine. Mais c'était impossible. Elle ne prenait pas de drogue. Je le sais. Ils avaient retrouvé de la méthamphétamine et du cannabis dans son sac à main. Mais ce n'était pas elle. On habitait ensemble que depuis peu, mais je savais qu'elle ne se droguait pas.
You said that you've gone through a divorce now. Mm-hmm. Who are you getting divorced from? Vicky, Arlene, Jensen.
Lors de mon premier interrogatoire, je savais que c'était Vicky. Alors je leur ai dit que Vicky l'avait tuée et qu'elle avait voulu tuer mon ex-femme.
Vicky's crazy. She's psychopath. She's been doing driving by. She drove by two nights ago with somebody in the van, showing them where we live.
Elle avait été tellement agressive en essayant de me récupérer que je savais qu'elle était derrière tout ça.
Diane was worried about Vicky stalking us, and she said Vicky's going to try one more thing, do one more thing to try and break us up.
J'ai l'air brisé, anéanti. Je regarde le jeune homme que j'étais, et je sais ce que je ressentais. Je savais que Vicky l'avait tué, et je me sentais responsable.
She hated Diane. She called, used to call Diane a slut or you know the image. But Diane was my soulmate. She loved me. I loved her. But we're right in the middle of a lover's triangle, aren't we?
Vicky m'a appelé sur mon portable.
And
Et elle m'a dit, en substance, j'ai appris ce qui est arrivé à Diane. Je suis vraiment désolé. Je lui ai dit, Vicky, je sais que tu es derrière tout ça. Et j'espère que tu brûleras en enfer pour ce que tu as fait. Et puis j'ai raccroché. J'ai déménagé. J'ignore comment elle m'a retrouvé, mais encore une fois, elle est venue chez moi. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler. J'ai dit, d'accord, allons faire un tour. On est monté dans sa voiture. Elle s'est garée sur le parking d'une église. J'avais toujours mon pistolet sur moi, toujours, mais j'étais tendu. Elle m'a dit qu'on devait se remettre ensemble, que je devais faire mon deuil, qu'il fallait que je revienne et que ma place était auprès d'elle. Elle avait changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme si son regard était vide, en quelque sorte.
Vicky, I'm not doing this anymore.
Alors, je lui ai dit que je ne reviendrai pas. Elle ne m'a même pas regardé. Elle regardait droit devant. Et elle a dit, alors c'est vraiment terminé? Elle était calme. J'ai eu peur. Ça ne lui ressemblait pas. Elle n'avait jamais été aussi calme avant. Je me suis assuré que j'avais bien mon pistolet sur moi. Et elle a dit, d'accord, je voulais juste être sûr. Quand je l'ai vue cette dernière fois, je savais qu'elle était derrière tout ça. Ça n'a pas changé ce que je pensais. C'est en février 2000, environ 6 mois après le meurtre, qu'on a appris ce qui s'était passé. J'ai reçu un appel de mon ancienne belle-sœur. Elle m'a dit, je voulais juste que tu saches que Vicky vient d'être arrêtée pour le meurtre de Diane. Et j'ai appris les détails de ce que Vicky avait fait à Diane. Et on peut faire une pause, s'il vous plaît.
This is obviously a serious charge. You know, it doesn't get any bigger than this. A lot of what happens to you hinges on how honest you are.
Vicky a tué Diane.
Autumn.
La fille de son frère était impliquée, ainsi que le petit ami d'automne, Matt Pearson. Elle a attendu que j'aille au travail. Quand je suis parti, automne est allée frapper à la porte. Elle a dit que son petit ami venait de la frapper et qu'elle avait besoin d'un téléphone pour appeler la police. Puis automne a sorti un pistolet.
We have information that you and a couple of other people went over to Anita Ray's house and that you had some fentanyl and that she was injected and that that was the cause of her death.
They helped. Ils ont plaqué Diane au sol. Et Vicky lui a fait une injection d'insuline. Puis, une autre, de méthamphétamine. Diane a crié tout le long. Et Vicky lui disait, « Je m'en fous, tu vas mourir. »
I know that you injected her, and I know that you guys put her on the bed and waited for it to take effect. I know that.
Diane ne mourrait pas assez vite au goût de Vicky. Alors, elle lui a mis un coussin sur le visage pour en finir. Ensuite, elle a voulu tuer la petite de 4 ans. Mais quelqu'un s'est interposé. Auton ou Matt l'en ont empêché. Ils n'étaient pas d'accord, alors elle ne l'a pas fait. Vicky, Auton et Matt ont été arrêtés. Grâce à Auton, j'imagine. Auton était au lycée. Elle n'avait que 15 ans à l'époque. Elle avait une amie qui ne s'entendait pas avec son beau-père. Et Auton a dit à son amie qu'elle avait une solution, qu'avec sa tante Vicky, elle connaissait un moyen de se débarrasser de quelqu'un sans se faire attraper. Son amie lui a dit « Comment tu peux en être sûr ?» Et elle lui a répondu qu'elle l'avait déjà fait.
And how we caught wind of it is this friend then contacted us and said, look, this is something I can't live with. The gig is up. I know that you killed her. From here on is going to determine probably the rest of your life.
They had rehearsed. Ils s'étaient entraînés la veille au soir. Ils avaient répété ce qu'ils allaient faire à Diane. Il n'y a pas plus odieux et prémédité que ça.
What I need you to do is be upfront and be honest with me and tell me what happened.
That I don't know a thing about it. I'm telling you the honest truth. I don't know a thing about it.
Lying. Quelle menteuse. Vous avez vu?
Lying.
Elle ment comme elle respire.
Garbage.
Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle savait très bien ce qu'elle avait fait.
I think I want to know.
That's probably good. You're going to be charged. And we're going to talk with the prosecutor now. You're going to be charged with murder.
Je dois avouer que je ressens une sorte de satisfaction malsaine à la voir en mauvaise posture. Pour une fois, elle ne maîtrisait pas tout. Elle était tellement arrogante. Elle ne doit plus faire la fière désormais. Au début, j'en ai voulu au procureur d'avoir accepté de ne pas requérir la peine capitale. Je voulais qu'elle vive en sachant qu'elle serait exécutée. C'était ce qu'elle méritait. Avec la prison à perpétuité sans possibilité de libération, l'objectif de protéger la société était atteint. Il fallait protéger la société de sa présence. Si Vicky voit ces images, j'aimerais lui dire, Vicky, c'est abominable ce que tu as fait. J'espère que tu brûleras en enfer, et j'espère que la vie est dure là où tu es.
Probably already know who I am. I look a lot like my mom, and I'm just here to ask you a few questions and try and clear things up in my mind. One of my biggest questions for you is, why did you just disappear out of my life? You and my mom were really, really close, and I don't understand why you just vanished, and you never cared about my well-being after the events. I never heard from you. I tried to reach out, and I never gotten any response. And so I would really, it would help me understand better if you could explain to me why you just left.
You're right. Tu as raison. J'aimais ta mère de tout mon cœur. Je regrette que tu aies senti que je t'avais abandonné. Ça n'a jamais été mon intention. Mais j'avais l'impression que si je restais dans ta vie, ça nous rappellerait toujours ce qui s'était passé. Et c'est vrai aussi que j'avais peur. Je sais que tu as essayé de me contacter. Mais je ne savais pas quoi te dire. Je te demande pardon.
Jade,
je ne voulais pas te rappeler le fait que ta mère n'était plus là. Si elle n'était plus là, c'était parce qu'elle m'aimait et parce que je l'aimais.
One of the other questions that I had was that growing up, I've heard a lot of stories about the events leading up to my mother's death. And a common thing among all the stories was that you knew Vicky was capable of hurting people and that you were scared of Vicky. And this feels like it could have been very preventable. And I just want to know why, if you knew that Vicky was capable of hurting people, why did this happen?
That's a tough question.
C'est une question difficile qui mérite une réponse. Pour faire court, je ne savais pas que Vicky ferait ce qu'elle a fait. Elle avait menacé de tuer mon ex-femme avec de l'insuline. J'aurais peut-être dû voir ça comme un signe. Sache que si j'avais eu le moindre doute sur ses intentions, je l'en aurais empêché. J'aurais tout fait pour vous protéger, toi et ta mère. Cela étant dit, je ne me trouve aucune excuse pour ce que je n'ai pas fait. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à ta mère. Et sans que je me dise que je ne l'ai pas protégée. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Pour toi et pour ta mère. Et surtout, je suis désolé que tu aies le sentiment que je ne l'aimais pas assez pour la protéger parce que... Arrêtez. J'ai besoin d'une pause.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est trop dur. Peut-être que j'aurais dû savoir. J'ai besoin d'un moment à moi. Mais je veux finir de répondre à Jade. Ses questions sont légitimes. Elle a le droit de savoir. Elle mérite que je lui réponde. Pardon, Jade. J'ai dû aller me ressaisir parce que... Ta question me renvoie à quelque chose qui me hante depuis 22 ans. Le fait que je n'ai pas protégé ta mère. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais je ne veux pas que tu croies que je ne me sens pas responsable de ce qui est arrivé à ta mère. C'est faux. J'espère que tu me pardonneras. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se voir et de parler de ça en personne. J'adorerais te parler de ta mère. Je te souhaite plein de bonnes choses. Voyons-nous.
Il y a des disparitions qui laissent une trace plus lourde que des meurtres avérés, parce qu'elles s'étirent dans le temps, parce qu'elles ne livrent aucun corps, aucun aveu, aucun crime reconnu. Elles se transforment en fantômes collectifs. Elles hantent les familles, rongent les consciences et finissent par se fondre dans la mémoire d'une époque comme une blessure jamais refermée. L'année 1995 en France a connu de nombreuses secousses sociales et politiques. Mais pour une famille de province, une seule date comptait, le jour où un homme ordinaire a quitté sa maison pour ne jamais y revenir. Son nom n'était pas inscrit dans les journaux, son visage n'a pas fait la une des télévisions. Il n'était ni politicien, ni star de cinéma, ni truand célèbre, mais son absence est devenue un gouffre, un silence qui avalait tout ce qui l'entourait. Cet homme s'appelait Jean-Marc Delorme. 50 ans à peine, marié depuis 2 décennies, père de 2 enfants, il incarnait cette figure discrète des années 90. Employé de bureau dans une petite société d'import-export, sans histoire apparente, avec cette routine qui rassure mais qui parfois dissimule des fractures invisibles. Le 12 octobre 1985, il est parti de son domicile en banlieue lyonnaise, et avec une sacoche usée, ses clés de voiture et un carnet de notes. Sa femme l'a vu franchir le portail, persuadée qu'il se rendait, comme chaque jour, au travail. Mais ce soir-là, Jean-Marc n'est jamais rentré. La première réaction fut l'attente. Quelques heures d'inquiétude, vite balayées par l'espoir qu'il ait été retenu, qu'il ait passé la nuit ailleurs. Mais les heures devinrent des jours, et les jours des semaines. L'absence se transforma en alerte. La police fut saisie, des battues organisées, les collègues interrogés. Rien, pas une trace. Ni son véhicule, ni son portefeuille, ni la moindre transaction bancaire, comme si le sol l'avait englouti. L'affaire Delorme, comme la surnommèrent plus tard les enquêteurs, s'ajouta à la longue liste des disparitions inquiétantes de l'époque. Mais très vite, faute d'indices, elle s'ensabla dans l'indifférence générale. Pourtant, à l'intérieur du foyer, le vide était absolu. La femme de Jean-Marc, Isabelle, sombra dans une spirale d'angoisse. Les voisins murmuraient, les rumeurs circulaient. Certains parlaient d'une double vie, d'autres d'un accident maquillé, d'une fuite volontaire. Ses enfants, encore adolescents, grandissaient avec une image fracturée de leur père, à la fois présent dans chaque souvenir et absent dans chaque geste du quotidien. L'absence d'un disparu n'est pas un néant. C'est une présence tordue, une ombre qui s'allonge sur les années. Ce n'est qu'un quart de siècle plus tard, au cœur d'un grenier poussiéreux, que le silence se fissura. Car dans une vieille valise oubliée, dissimulée sous des draps jaunis, le fils de Jean-Marc découvrit un objet minuscule, banal en apparence, mais chargé d'une puissance explosive, une bague. Pas n'importe laquelle, la chevalière de son père, celle qu'il portait tous les jours, celle dont il ne se séparait jamais. Gravée de ses initiales, GM, avec un éclat d'or terni par le temps. Cette bague, que personne n'avait revue depuis 1995, gisait là, au milieu de papiers froissés et de photos écornées. Comment avait-elle atterri dans ce grenier? Pourquoi n'avait-elle jamais été retrouvée lors des perquisitions de l'époque? Était-ce la preuve d'un retour clandestin ou la relique d'un drame soigneusement dissimulé? Mais revenons à 1995. Pour comprendre la force de cette découverte, il faut replonger dans l'ambiance de cette année charnière. La France était secouée par des attentats. La méfiance flottait dans l'air. Les journaux rapportaient chaque semaine de nouveaux drames. Dans ce climat, la disparition d'un homme ordinaire avait bien peu de chances d'attirer l'attention médiatique. Et pourtant, certains détails troublaient les enquêteurs. Jean-Marc avait été vu, quelques jours avant son absence, en train de discuter vivement avec un inconnu près de sa voiture. L'homme n'a jamais été identifié. Son carnet de notes, introuvable après sa disparition, contenait, selon sa femme, des gribouillis étranges, des initiales, des numéros qui n'évoquaient rien de familier. Comme si une part de sa vie échappait à tous, même à ses proches. Les recherches menées alors mobilisèrent chiens, pisteurs, plongeurs, contrôles dans les gares et les aéroports. Rien. Pas même un vêtement abandonné. Le dossier s'épaississait de rapports inutiles et de photos de famille en noir et blanc, sans offrir la moindre piste solide. Isabelle fut interrogée des dizaines de fois, ses colères, ses larmes, ses silences. Toujours la même phrase, « Mon mari n'avait aucune raison de partir ». Pourtant, dans le quartier, les langues se déliaient. On évoquait des dettes cachées, une liaison extra-conjugale, des fréquentations douteuses. La police, faute de preuves, se contentait d'archiver. L'affaire entra dans cette zone grise où se mêlent hypothèses et oubli. Une disparition sans corps est comme une équation sans solution. Chacun y projette ses propres peurs. Certains policiers affirmaient que Jean-Marc avait volontairement disparu, changeant de vie ou une nouvelle identité. D'autres imaginaient un règlement de compte discret, une mort étouffée enterrée quelque part dans un champ ou un bois. Mais l'absence de tout indice matériel paralysait les certitudes. La seule trace restait la douleur de ceux qui l'attendaient encore. Et c'est précisément là que la découverte du fils, 25 ans plus tard, prend une dimension vertigineuse. Car une bague ne se déplace pas seule. Elle est un objet intime, porté au quotidien, témoin de gestes, d'habitudes, de liens. La retrouver dans un lieu aussi anodin qu'un grenier, c'est comme entendre une voix étouffée ressurgir du passé. Était-ce le signe qu'il avait été là, après tout? ou bien que quelqu'un, proche de la famille, avait su plus de choses qu'il ne l'avait avoué. La bague devenait alors une pièce à conviction tardive, une clé rouillée, qui pouvait rouvrir une porte scellée depuis trop longtemps. Dans les affaires criminelles, les objets ont souvent plus de mémoire que les hommes. Une fibre textile, une trace de sang séché, un bijou oublié. Tous portent en eux l'empreinte invisible du temps. Ici, c'est une chevalière qui réveillait l'ombre d'un disparu. Mais avant de comprendre ce qu'elle révélait, il fallait revenir au cœur même de l'énigme, qui était réellement Jean-Marc Delorme. Jean-Marc Delorme. Derrière ce nom ordinaire se cachait un homme que beaucoup croyaient connaître, mais dont les contours semblaient s'effacer à mesure que l'enquête avançait. Né en 1945 dans une petite ville ouvrière, il avait grandi dans une famille modeste marquée par la rigueur et le silence. Son père, ancien cheminot, parlait peu. Sa mère, couturière, était l'incarnation d'une patience douloureuse. L'enfant studieux qu'il était se forgea tôt un goût pour la discrétion, une manière de se fondre dans le décor, de ne jamais attirer les regards. Mais sous cette façade se dessinait un caractère complexe, peut-être plus fragile qu'on ne le croyait. À l'âge adulte, il s'était marié avec Isabelle, jeune femme énergique et vive, qui voyait en lui un pilier, une promesse de stabilité. Ensemble, ils avaient construit une vie banale mais solide. Une maison dans une banlieue tranquille, deux enfants, des étés passés au bord de la mer, des repas du dimanche autour d'un poulet rôti, rien qui ne laisse présager un basculement. Et pourtant, les disparitions les plus déconcertantes naissent souvent dans les vies les plus anodines. Lorsque les policiers ont fouillé le passé de Jean-Marc, ils ont découvert quelques aspérités, des dettes modestes mais réelles, accumulées à cause de placements douteux dans les années 90, à une époque où beaucoup de familles rêvaient de s'enrichir grâce aux promesses de courtiers peu scrupuleux. Des tensions au travail aussi, un collègue évoquait un homme parfois nerveux, distant, qui s'absentait sans prévenir. Mais rien qui justifie une disparition pure et simple. Le détail le plus troublant restait ce carnet disparu, que sa femme évoquait avec insistance. Un cahier noir, relié de cuir, que Jean-Marc gardait toujours à portée de main. Elle disait l'avoir vu y inscrire des séries de chiffres, des lettres isolées, comme des codes. Il m'a toujours dit que c'était pour ses comptes, ses affaires, expliquait-elle aux enquêteurs. Mais le carnet n'a jamais refait surface. On imagine aujourd'hui ce qu'il aurait pu contenir. Des rendez-vous secrets, des noms compromettants, ou simplement des notes personnelles. Mais dans une affaire criminelle, l'absence d'un objet est parfois plus lourde de sens que sa présence. Les voisins, eux, décrivaient un homme courtois mais distant. Toujours poli, mais jamais vraiment ouvert, racontait une voisine des années plus tard. Un autre se souvenait d'avoir entendu des disputes étouffées derrière les murs, des voix qui montaient, des portes qui claquaient. Isabelle, interrogée, niait vigoureusement toute crise conjugale. Pourtant, certains policiers n'étaient pas convaincus. Une disparition de conjoint, sans trace, sans témoin, place toujours l'épouse au premier rang des suspects. On fouilla sa maison de fond en comble, on examina ses comptes bancaires, ses appels téléphoniques, rien. Isabelle resta une femme éplorée, figée dans un rôle que certains jugeaient en sincère, d'autres suspect. Les enfants, trop jeunes à l'époque, ne purent apporter aucun éclairage. Le fils, âgé de 14 ans, disait avoir entendu son père au téléphone la veille de sa disparition, parlant à voix basse, dans le jardin. Il n'avait compris que deux mots, « demain » et « gare ». Mais l'information, jugée floue, ne mena à rien. La fille, plus jeune encore, se souvenait seulement de l'odeur de la veste de son père, restée suspendue derrière la porte d'entrée, comme un vestige cruel d'une normalité disparue. L'absence de corps compliquait tout. Dans les dossiers judiciaires, un cadavre est une vérité. Sans lui, tout est hypothèse. Les policiers envisagèrent alors la piste de la fuite volontaire. Certains indices semblaient l'appuyer. Un retrait d'argent en liquide effectué deux jours avant sa disparition, un sac de voyage aperçu par un voisin dans le coffre de sa voiture. Mais pourquoi un homme abandonnerait-il femme et enfant sans un mot? Et surtout, pourquoi aucun signe de vie ensuite? Pas de lettres, pas d'appels, pas de mouvement bancaire. Le silence, total. Avec le temps, l'enquête perdit de sa vigueur. les agents furent affectés à d'autres affaires. Les archives s'empilèrent. La disparition de Jean-Marc Delorme rejoignit la liste interminable des dossiers en sommeil. Mais pour sa famille, chaque jour était une enquête parallèle, menée dans le secret. Isabelle écumait les hôpitaux, appelait les commissariats, s'accrochait au moindre signalement d'homme inconnu, amnésique ou errant. Elle croyait parfois reconnaître son mari dans une photo de presse, dans un reportage télévisé. L'espoir est un poison lent qui ronge ce qui reste. 25 ans plus tard, lorsque son fils monta dans ce grenier poussiéreux, ce n'était pas pour chercher des réponses, mais pour trier des vieilles affaires. La valise n'avait rien de particulier, en cuir brun, usé, avec une poignée fendue. Mais en l'ouvrant, il sentit ce frisson que l'on connaît dans les vieilles maisons, ce mélange d'odeurs, de papier moisi et de secrets enfouis. Parmi les draps et les cahiers jaunis, il trouva cette bague. La chevalière. Une preuve matérielle, lourde comme un aveu, car Jean-Marc ne se séparait jamais de cette bague. Elle était à son doigt sur toutes les photos de famille. Isabelle confirma immédiatement. Il la portait même la nuit. Comment avait-elle pu réapparaître là, dans la maison familiale, alors qu'il était censé être parti avec? Était-ce lui qui l'avait déposé un soir en revenant en cachette? Était-ce quelqu'un d'autre, un proche, un complice, ou pire, son meurtrier, qui l'avait laissé comme un signe, un avertissement? Les policiers, alertés par cette découverte, rouvrirent le dossier. Le grenier fut fouillé, la valise analysée, la bague expertisée. On y trouva des traces d'oxydation normales, mais aussi une micro-rayure comme si elle avait été forcée, arrachée d'un doigt. Les spécialistes en criminalistique savent que les objets parlent. Une rayure peut indiquer une lutte, un arrachement brutal. Mais après 25 ans, la vérité scientifique s'érode, les preuves se dissolvent dans le temps. Restait l'énigme. Comment cette chevalière avait-elle traversé les décennies pour réapparaître là, silencieuse, dans un grenier? Ce que l'on comprit alors, c'est qu'autour de Jean-Marc gravitait peut-être un secret bien plus vaste. Car au même moment, en 1995, d'autres affaires étranges touchaient la région lyonnaise. Des disparitions sporadiques, des règlements de comptes liés à des réseaux opaques. L'époque, marquée par la transition économique, voyait fleurir des trafics de toutes sortes, où des hommes ordinaires pouvaient être happés par des forces qui les dépassaient. Était-ce le cas de Jean-Marc ? Avait-il mis le doigt, volontairement ou non, sur un engrenage dangereux? La bague devenait alors un symbole, pas seulement celui d'un homme disparu, mais celui d'une mémoire qui refuse d'être effacée. Dans les affaires criminelles, on dit souvent qu'il n'existe pas de disparition parfaite et que le temps, un jour, finit toujours par fissurer le silence. Mais parfois, c'est un objet minuscule qui ouvre la brèche. Et derrière cette brèche, il y avait, pour la famille Delorme, une possibilité terrible, découvrir enfin ce qui était arrivé à leur père. Mais la vérité, lorsqu'elle émerge après un quart de siècle, n'apporte jamais de consolation. Elle n'apporte que des ombres plus précises, des fantômes qui cessent d'être flous pour devenir insoutenables. L'enquête rouverte en 2020 ne ressemblait plus en rien à celle de 1995. Les méthodes avaient changé, les mentalités aussi. Là où l'on archivait jadis des dossiers poussiéreux, on parlait désormais de « cold case », de crimes jamais résolus qui pouvaient être ravivés par une technologie nouvelle, un détail réexaminé, une mémoire qui se fissure. Les policiers de la cellule spéciale de Lyon, en charge de ces affaires anciennes, reçurent la bague comme une relique. Pour eux, c'était une pièce à conviction, certes minuscule, mais suffisante pour rouvrir une brèche. Ils convoquèrent le fils de Jean-Marc. Son témoignage, livré avec une émotion contenue, décrivait la découverte presque comme une scène de film. Le grenier poussiéreux, la valise craquelée, et soudain ce cercle d'or terni qui brillait dans la pénombre. L'objet fut photographié sous toutes les coutures, scellé, soumis à des analyses ADN. Mais après 25 ans, pouvait-on espérer y trouver une trace biologique exploitable ? L'ADN, cette arme implacable des enquêtes modernes, exige un minimum de matière. Et la bague, nettoyée à l'époque ou simplement usée par le temps, ne livra rien de concluant. Pas de sang, pas de sueur, pas d'épiderme conservé. Le silence restait son unique secret. Alors, les enquêteurs reprirent tout depuis le début. Ils rouvrirent les cartons jaunis, les procès-verbaux d'interrogatoire, les photographies de la maison de l'Orme, les témoignages des voisins. Et déjà, un détail les troubla. La perquisition du grenier en 1995 ne mentionnait aucune valise. Les policiers de l'époque, méthodiques, avaient pourtant fouillé chaque pièce. Comment expliquer que ce bagage soit apparu aujourd'hui ? Était-il déjà là, mais oublié, ou avait-il été déplacé, rapporté plus tard ? Cette simple question suffisait à replonger le dossier dans une zone d'ombre inquiétante. Isabelle, la veuve, fut interrogée à nouveau. Ses cheveux gris, son visage marqué par le temps, la rendaient méconnaissable pour ceux qui l'avaient connue. Mais sa voix, toujours ferme, répétait la même certitude. « Jean-Marc n'a jamais voulu disparaître. On l'a fait disparaître. » Lorsqu'on lui montra la bague, elle blêmit. Elle la prit dans ses mains tremblantes, comme si elle retrouvait un fragment de son mari. Mais elle jura ne l'avoir jamais vue depuis le jour de sa disparition. « Si elle a été placée là, dit-elle, c'est que quelqu'un est venu dans cette maison après coup. » La phrase résonna comme une accusation implicite. Les enquêteurs se tournèrent alors vers les proches. Le cercle était restreint. Famille, collègues, quelques amis. Parmi eux, un nom ressortait dans les procès-verbaux anciens. Celui de Philippe Carrel, un voisin et compagnon de pêche de Jean-Marc. Interrogé en 1995, il avait affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal, sinon que son ami paraissait soucieux les jours précédents. 25 ans plus tard, Carrel vivait toujours dans la même rue, seul, reclus, silhouette voûtée hantant les trottoirs. Quand la police frappa à sa porte, il accueillit les enquêteurs avec une lassitude résignée. « Vous venez encore pour Jean-Marc ?»« Cela fait un quart de siècle. » Son témoignage avait peu changé, mais un détail nouveau apparut, comme si le temps l'avait rendu moins prudent. Il admit avoir vu, le soir de la disparition, une voiture inconnue garée près de la maison de l'Orme, une berline sombre, immatriculée dans un autre département. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Carrel haussa les épaules. « À l'époque, je ne voulais pas avoir d'ennui. » La phrase ambiguë intrigua les enquêteurs. Que craignait-il exactement ? Et surtout, pourquoi se libérer aujourd'hui, après 25 ans de silence ? La piste de cette voiture ouvrit un champ d'hypothèses. Si Jean-Marc avait rencontré quelqu'un ce soir-là, si un rendez-vous secret avait eu lieu, il était possible qu'il ait été enlevé, contraint ou attiré dans un piège. Mais par qui ? Et pour quelle raison ? C'est alors que les policiers ressortirent une pièce secondaire du dossier de 1995. Les notes griffonnées par un collègue de travail décrivant un Jean-Marc préoccupé par des papiers importants. Le collègue parlait aussi d'un appel reçu au bureau quelques jours avant sa disparition. Un appel bref où une voix grave avait demandé à parler à Jean-Marc. Celui-ci avait raccroché. Blême. Les enquêteurs suivirent cette piste en consultant les archives de l'entreprise où il travaillait. Fermé depuis longtemps, ces documents avaient été dispersés. Mais dans un entrepôt, ils retrouvèrent des cartons poussiéreux contenant des factures, des contrats, des dossiers d'import-export. Et là, un nom réapparut, une société écran domiciliée à l'étranger qui faisait transiter des marchandises douteuses par la région lyonnaise dans les années 90. On y voyait la signature de Jean-Marc, témoin de transactions opaques. Était-il complice ou simple employé pris dans un engrenage ? Les affaires criminelles ont souvent des racines économiques. Derrière une disparition, il y a parfois un secret financier, un mensonge professionnel, une dette qui se transforme en menace. Et dans la France de 1995, les circuits parallèles de contrebande prospéraient dans l'ombre. Était-ce là que Jean-Marc avait posé un pied de trop ? La bague, retrouvée dans la maison familiale, pouvait alors signifier une chose, qu'il avait été ramené, mort ou vif, par ceux qui voulaient effacer sa trace et qu'un objet avait échappé à leur vigilance. La presse, alertée de la réouverture du dossier, commença à s'y intéresser. Des journaux régionaux titrèrent « 25 ans après, la bague relance le mystère de l'Orme ». Pour la première fois, l'affaire sortait de l'ombre. Mais pour la famille, l'exposition publique ravivait la douleur. La fille, désormais adulte, refusa toute interview. « Ce n'est pas un spectacle », disait-elle. « C'est notre vie brisée. » Le fils, lui, accepta de parler, convaincu que la vérité ne pouvait éclore qu'à travers la lumière. « Mon père ne mérite pas de rester un fantôme », déclara-t-il à la télévision locale. Pendant ce temps, la police élargissait ses recherches. On retraça d'anciens employés de l'entreprise où travaillait Jean-Marc. Certains évoquèrent des colis suspects, des livraisons nocturnes, des pressions venues d'au-dessus. Mais les hiérarchies avaient changé, les responsables avaient disparu, morts ou partis à l'étranger. Le fil était ténu, presque cassé. Seule la bague, muette, restait comme une balise dans l'obscurité. Et pourtant, un soir, un élément inattendu surgit. Une femme appela la cellule d'enquête. Elle se présenta comme une ancienne secrétaire de l'entreprise. Elle avait quitté la région depuis longtemps, mais en voyant les articles récents, elle avait ressenti le besoin de parler. Sa voix, brisée par l'âge, raconta un souvenir. Quelques jours avant la disparition, elle avait surpris Jean-Marc dans un couloir, discutant avec deux hommes inconnus. L'un d'eux tenait la bague dans sa main, comme pour la contempler. Elle se souvenait du détail parce que Jean-Marc avait eu un geste brusque, arrachant le bijou avant de quitter la pièce, furieux. « J'ai eu peur, » dit-elle, « alors je n'ai rien dit. » Ce témoignage tardif apportait une nuance terrible. La bague, avant de disparaître avec Jean-Marc, avait déjà été au centre d'une tension, comme si elle symbolisait quelque chose de plus grand qu'elle-même. Comme si ce petit cercle d'or portait un secret que personne ne voulait révéler. L'image rapportée par cette ancienne secrétaire glaça les enquêteurs. Deux hommes inconnus, la bague entre leurs mains, quelques jours seulement avant la disparition de Jean-Marc. Cette scène changeait tout. Car soudain, la chevalière n'était plus seulement un objet personnel, mais peut-être une clé, un symbole, un gage. Les bijoux peuvent servir de preuve d'identité, de monnaie d'échange ou de message codé dans les milieux clandestins. Que représentait-elle dans cette histoire? Pourquoi ces hommes s'y intéressaient-ils autant? Les policiers s'efforcèrent d'identifier ces mystérieux interlocuteurs. Mais après un quart de siècle, les souvenirs se brouillent, les visages s'effacent. La secrétaire, malgré ses efforts, ne pouvait donner que des descriptions vagues. Des hommes d'une quarantaine d'années, costume sombre, accent peut-être étranger. Elle hésitait entre l'Europe de l'Est ou l'Italie, ce qui, dans les années 90, évoquait immédiatement les réseaux criminels qui profitaient de la chute du rideau de fer pour étendre leur influence en Europe occidentale. Cette piste plongeait l'affaire Delorme dans un univers que personne n'avait soupçonné à l'époque, car les années 90 avaient été marquées par l'essor de trafics internationaux, notamment autour du port de Marseille, et des grands axes routiers reliant la France à l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Tabac, armes, faux papiers, parfois drogue. Les cargaisons circulaient discrètement, protégées par des sociétés écrans et des complicités locales. Et si Jean-Marc, simple employé administratif, avait découvert quelque chose dans ses dossiers? Une anomalie comptable, une facture suspecte, un nom qu'il n'aurait pas dû lire? Dans ce cas, deux hypothèses se dessinaient, soit il avait voulu se taire et on l'avait fait disparaître pour éliminer tout risque. Soit, au contraire, il avait tenté de résister, de dénoncer, et sa bague, arrachée de son doigt, était devenue le trophée, ou le message de ses agresseurs. La valise retrouvée dans le grenier prit alors une dimension troublante, car si elle contenait la bague, elle contenait aussi des papiers jaunis, des factures, des notes manuscrites, des photos découpées dans des journaux. La plupart semblaient sans lien, mais les enquêteurs y virent une logique souterraine. Certaines factures correspondaient à des cargaisons transitant par la société où travaillait Jean-Marc. Certaines notes reprenaient des initiales, identiques à celles que son épouse avait évoquées jadis dans son fameux carnet noir. Et au milieu, une photo déchirée, montrant deux hommes près d'un entrepôt, leurs visages à moitié visibles. Le passé, soudain, se matérialisait de nouveau, mais sous une forme fragmentée, presque fantomatique. Pourquoi ces documents avaient-ils été cachés là, dans la maison familiale, sans que personne ne les découvre pendant 25 ans? La police établit deux scénarios. Soit Jean-Marc avait lui-même ramené ses papiers, dans une tentative désespérée de protéger des preuves avant de disparaître. Soit quelqu'un d'autre, après sa mort probable, avait voulu placer ses indices dans le grenier, comme pour brouiller les pistes ou au contraire pour laisser une trace discrète, un fil à tirer pour plus tard. Le fils qui avait trouvé la valise se posait la même question. Si c'est mon père qui l'a cachée, cela signifie qu'il a eu le temps de rentrer ici, de grimper dans le grenier, de déposer ses affaires avant de repartir et de ne jamais revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Son raisonnement glaça les enquêteurs, car il ouvrait la possibilité d'une séquestration ou d'un enlèvement commis juste après ce geste désespéré. En parallèle, la police tenta de confronter les anciens collègues de Jean-Marc. La plupart étaient partis loin, certains étaient étés et décédés. Mais un homme, ancien chef de service, se souvenait de rumeurs persistantes. On disait que Jean-Marc avait vu des choses qu'il n'aurait pas dû, qu'il avait été approché pour se taire. Il n'en parlait pas, mais son attitude avait changé. Et puis, une phrase lancée comme un écho sinistre. Il disait toujours que sa bague était sa force. Son ancrage, que tant qu'il l'avait, rien ne pouvait l'atteindre. Cette déclaration résonna étrangement avec la découverte du bijou, comme si l'objet était devenu, pour Jean-Marc, un talisman fragile dans une guerre silencieuse. L'idée qu'une simple chevalière puisse cristalliser un conflit entre un homme et des forces obscures peut sembler excessive. Mais dans les affaires criminelles, les symboles comptent autant que les preuves. Un bijou, une montre, une photographie, tous peuvent devenir des signes de pouvoir, de menace ou de mémoire. Et dans ce dossier, la bague apparaissait désormais comme le cœur du mystère, son point de gravité. La réouverture médiatique de l'affaire attira aussi des témoignages imprévus. Un ancien chauffeur routier, anonyme, appela pour dire qu'il avait croisé Jean-Marc dans une station-service, le soir même de sa disparition. Selon lui, l'homme semblait nerveux, comme s'il attendait quelqu'un. À ses côtés, une sacoche de cuir. Mais il jurait qu'il n'était pas seul. Deux silhouettes l'observaient depuis une voiture stationnée un peu plus loin. Le routier, à l'époque, n'avait pas fait le lien, mais les articles récents avaient réveillé sa mémoire. Chaque nouveau témoignage renforçait la sensation d'un engrenage invisible. Jean-Marc n'avait pas disparu dans le néant. Il avait été happé par une toile, une mécanique froide, où la bague n'était qu'un fragment de vérité échappé. Et plus les enquêteurs avançaient, plus une certitude s'imposait. Cette disparition n'était pas l'acte isolé d'un homme en fuite. C'était le produit d'une organisation, d'intérêt plus grand que lui. Le fils, en regardant la bague entre les mains des enquêteurs, murmura une phrase qui résumait tout. C'est comme si elle avait attendu qu'on la retrouve. Comme si elle voulait parler. Les policiers savaient qu'une bague ne parle pas, mais les criminels, eux, laissent toujours des traces. Et parfois, un simple objet suffit à rouvrir la porte qu'ils croyaient verrouillée à jamais. C'est à ce moment que l'affaire Delorme prit une dimension nouvelle, car l'un des enquêteurs, spécialiste des archives judiciaires, fit le lien avec une autre disparition survenue à Lyon en 1996. Un comptable, lui aussi mêlé à des sociétés d'import-export douteuses, volatilisées sans laisser de traces. Là encore, un objet personnel avait ressurgi des années plus tard comme un signe. Une montre gravée retrouvée dans une benne à ordures. Les similitudes frappèrent les policiers. Deux disparitions, deux employés modestes, deux objets symboliques réapparus hors de tout contexte. Était-ce un mode opératoire ? Une signature criminelle laissée volontairement par ceux qui tiraient les ficelles, la vérité semblait se dessiner à travers ces fragments. Mais plus elle apparaissait, plus elle effrayait. Car derrière la disparition d'un homme ordinaire, se profilait peut-être une structure invisible, un réseau tentaculaire qui, dans les années 90, avait effacé des vies entières pour protéger ses secrets. Et la bague, loin d'être une relique inoffensive, devenait la balise lumineuse qui pointait vers l'abîme. La découverte de similitudes entre l'affaire Delorme et la disparition du comptable lyonnais en 1996 fut un choc. Deux hommes sans lien apparent, deux destins effacés de la même manière, et à chaque fois un objet intime réapparut des années plus tard. Comme si une main invisible avait voulu semer des cailloux dans la nuit. Pour les enquêteurs, ce n'était plus une coïncidence. C'était une signature. Le dossier du comptable, exhumé des archives, livrait un récit glaçant. Pierre Lambert, 42 ans, père de famille, avait disparu un soir de novembre en quittant son bureau. Aucun témoin, aucune trace. Mais en 2004, soit 8 ans après, un éboueur avait trouvé une montre gravée de ses initiales dans une benne industrielle. L'enquête avait été brièvement relancée avant de s'éteindre faute de nouvelles pistes. Là encore, les soupçons portaient sur des sociétés écrans liées à des flux financiers troubles. Et là encore, l'homme avait semblé anodin, comme pris au piège de forces qui le dépassaient. Relier ces deux affaires devint une obsession. Les enquêteurs parcoururent les registres, cherchèrent des disparitions comparables dans la région Rhône-Alpes au milieu des années 90. Trois autres cas émergèrent, tous classés sans suite. Une femme retrouvée morte dans sa voiture carbonisée, dont le compagnon travaillait dans la logistique internationale. Un jeune douanier disparu sur la route de l'aéroport. Un agent portuaire de Marseille, volatilisé après avoir découvert des irrégularités dans des conteneurs. Chaque fois, une vie ordinaire aspirée par une mécanique souterraine. Et chaque fois, un silence pesant, des familles abandonnées, des enquêtes inachevées. Les journalistes flairèrent rapidement une histoire. Dans les colonnes de la presse régionale, on parlait désormais du « cercle des disparus ». Mais pour les familles, ce n'était pas un cercle, c'était un gouffre. Le fils de Jean-Marc, invité sur un plateau télé, posa des mots d'une simplicité glaçante. « Si mon père a été effacé parce qu'il avait vu ce qu'il ne fallait pas, alors combien d'autres ont été réduits au silence ?» Cette question, qui résonna dans les foyers, transforma l'affaire Delorme en un symbole national des cold cases français. Les enquêteurs, eux, suivaient une piste précise. L'entreprise où travaillait Jean-Marc. Ses archives révélaient des flux financiers transitant par une société fantôme basée au Luxembourg, écran classique des réseaux criminels. Plusieurs noms apparaissaient en filigrane, parmi eux un certain Vittorio Mancini, homme d'affaires italien lié à des trafics transalpins dans les années 90. Mancini avait été brièvement arrêté en 1998 avant de disparaître lui aussi, mais dans les méandres de la clandestinité. Pour la cellule de Lyon, il devenait une figure centrale, le possible chef d'orchestre de cette toile criminelle. Et si Jean-Marc, comptable secondaire d'une société périphérique, avait mis la main sur une pièce compromettante, une facture, une livraison truquée, une correspondance interne, ce genre de détails que les criminels redoutent, car il suffit parfois d'une signature pour faire tomber tout un réseau. Dans ce cas, sa disparition n'était pas un hasard, mais une nécessité pour ceux qui voulaient protéger leur empire. La bague, retrouvée 25 ans plus tard, apparaissait alors sous un nouveau jour. Elle pouvait être un vestige, certes, mais aussi un message laissé volontairement. Peut-être par quelqu'un à l'intérieur du réseau qui voulait qu'un jour la vérité ressurgisse. Ou peut-être par un proche, complice ou témoin incapable de garder le silence éternellement. Mais pourquoi l'avoir laissé dans le grenier familial? Était-ce une provocation? Une manière de dire « nous étions là » L'idée glaça la famille. Car si tel était le cas, cela signifiait qu'un intrus avait pénétré leur maison, à un moment indéterminé, pour y déposer cette valise. Le fils se souvenait d'avoir entendu, enfant, des bruits étranges la nuit, des pas dans l'escalier, des craquements qu'il avait attribués au bois. Et si, sans le savoir, il avait assisté à une intrusion, à un rituel funèbre déguisé en banalité, les enquêteurs, désormais convaincus d'une piste criminelle, consultèrent Interpol. Les réseaux de contrebande des années 90 avaient laissé des traces. Des rapports sur des cargaisons d'armes en provenance des Balkans, sur des flux d'argent blanchis via des sociétés luxembourgeoises, sur des complicités en France. Le nom de Mancini revenait encore, comme une ombre persistante. Mais l'homme, s'il était encore en vie, avait depuis longtemps disparu des radars. L'affaire Delorme devint alors le théâtre d'une course contre le temps, car les témoins mouraient, les souvenirs s'effaçaient, les preuves matérielles se dégradaient. La bague et les papiers jaunis étaient tout ce qui restait de tangible. Pourtant, un détail attira l'attention d'un expert en écriture. Sur l'un des feuillets retrouvés dans la valise, Jean-Marc avait griffonné un mot répété trois fois. Rive, rive, rive. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une adresse, un code, une consigne? Les policiers se penchèrent sur les cartes de Lyon. Le mot pouvait renvoyer aux berges du Rhône ou de la Saône, mais il pouvait aussi désigner un lieu précis, Rive de Gier, une petite ville industrielle à une quarantaine de kilomètres. Coïncidence ou piste réelle? On lança des fouilles dans d'anciens entrepôts abandonnés. Les chiens, dressés pour détecter des restes humains, marquèrent à plusieurs reprises le sol d'un hangar délabré. Mais aucune exhumation concluante ne put être faite. Le béton avait été coulé depuis 20 ans, scellant peut-être à jamais ce qu'il recouvrait. La frustration grandissait. Chaque piste semblait s'ouvrir pour aussitôt se refermer. Mais plus l'affaire progressait, plus elle dessinait un tableau effrayant. Celui d'un pays traversé par des réseaux clandestins, où des vies humaines étaient sacrifiées pour préserver le silence. Dans cette mosaïque de disparitions, Jean-Marc Delorme n'était peut-être qu'une pièce, mais une pièce capable d'ébranler l'ensemble si elle venait à être comprise. La presse nationale s'empara définitivement du sujet. Les titres parlaient d'un fantôme de 1980, d'un silence brisé par une bague. Des documentaires furent lancés, des débats organisés. Pour certains, cette affaire révélait l'incapacité de la justice française à protéger ses citoyens. Pour d'autres, elle n'était qu'une cicatrice parmi tant d'autres, mais une cicatrice devenue visible, enfin. La famille, elle, oscillait entre douleur et espoir. La veuve, Isabelle, ne quittait plus la bague, qu'elle avait supplié la police de lui rendre après les expertises. Elle la portait autour du cou, comme pour renouer un lien invisible avec son mari. « Il est toujours là », murmurait-elle, comme une prière. Mais ses yeux trahissaient une peur, celle que la vérité, si elle venait à surgir, soit plus insoutenable que le mystère. Car la vérité, dans les affaires criminelles, n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle ouvre des abîmes. Et déjà, les enquêteurs sentaient que derrière la bague, derrière les notes griffonnées, se cachait une ombre plus vaste. Un secret qui dépassait la disparition d'un seul homme. Un secret lié à une époque, à un pays, à un réseau qui n'avait jamais cessé de tisser sa toile. Le mot « rive » répété 3 fois sur le feuillet jauni retrouvé dans la valise devint une obsession pour les enquêteurs. 3 fois, comme un cri réitéré, une insistance désespérée. Pourquoi l'écrire, sinon pour que quelqu'un comprenne, plus tard, que là se trouvait la clé? Les policiers savaient que les disparus, lorsqu'ils pressent leur chute, laissent parfois des traces codées, des chiffres, des mots, des symboles. Jean-Marc, comptable méticuleux, n'aurait pas choisi ce mot par hasard. La piste de Rive de Gier avait été explorée, sans succès. Mais les enquêteurs remarquèrent que dans la région lyonnaise, le mot « rive » résonnait aussi comme une frontière symbolique. Les rives du Rhône, celles de la Saône. Deux fleuves qui traversent la ville, qui ont vu passer depuis des siècles des marchandises, des secrets, des corps parfois. Les archives judiciaires regorgeaient de récits macabres, valises retrouvées dans les eaux, disparues englouties par les courants. Était-ce là que Jean-Marc avait voulu guider ceux qui chercheraient après lui? Des plongeurs furent dépêchés dans certaines zones signalées comme suspectes. Les eaux étaient opaques, les fonds encombrés de détritus. Les sondes sonars détectèrent des anomalies, mais rien qui puisse être relié formellement à Jean-Marc. La rivière, comme souvent, avait avalé plus de vérité qu'elle ne pouvait en restituer. Pourtant, une découverte troubla les enquêteurs. Une plaque métallique portant les initiales VM fut extraite de la vase. Certains y virent un écho au nom de Vittorio Mancini, coïncidence ou trace. L'objet fut archivé, mais son origine resta indéterminée. Pendant ce temps, le fils de Jean-Marc s'acharnait lui aussi à comprendre. Obsédé par le mot « rive », il fouilla dans les affaires de son père, consulta les cartes anciennes de la région. Et un détail surgit. Dans le carnet d'adresse familiale, jauni par le temps, une entrée portait simplement la mention « rive 0437 », suivie d'un numéro incomplet. L'indicatif correspondait effectivement à la ville de Rive de Gier. Mais la ligne n'existait plus depuis longtemps. Il fit appel à un ancien technicien des télécoms, qui confirma que ce numéro avait appartenu dans les années 90 à un entrepôt industriel démoli depuis. Les enquêteurs s'y rendirent. Sur le terrain vague, il ne restait qu'une dalle de béton fissuré et des herbes sauvages. Mais en grattant les archives municipales, ils retrouvèrent le plan du bâtiment. un entrepôt de stockage loué à une société écran entre 1993 et 1995. Une fois encore, les traces pointaient vers le même réseau, celui qui utilisait les façades légales pour couvrir des trafics clandestins. Était-ce là que Jean-Marc avait rendez-vous le soir de sa disparition ? Était-ce là qu'il avait tenté de laisser un indice, sachant qu'il ne reviendrait peut-être pas ? La famille, confrontée à ces révélations, oscillait entre espoir et terreur. Isabelle, l'épouse, répétait « Il voulait nous dire quelque chose. Il a laissé des signes. » Mais ses yeux exprimaient une autre peur, celle de découvrir que son mari avait peut-être participé, même malgré lui, à des activités criminelles, car dans les récits de certains anciens collègues, Jean-Marc n'était pas seulement une victime. On le décrivait parfois comme nerveux, secret, distant, comme s'il portait un fardeau qu'il ne voulait pas partager. La frontière entre le témoin et le complice devenait floue. Les enquêteurs s'interrogeaient. Et si Jean-Marc n'avait pas seulement découvert un réseau, mais tenté de le dénoncer ? Dans ce cas, sa disparition serait une exécution, un effacement méthodique. Mais si, au contraire, il avait trempé dans l'affaire, puis cherché à se retirer, il aurait pu être réduit au silence par ceux qu'il trahissait. Dans les deux hypothèses, la bague retrouvée, arrachée ou déposée, restait le point de bascule. Un soir, l'un des policiers de la cellule spéciale proposa une lecture plus symbolique. Rive, répétée trois fois, pouvait aussi signifier un état psychologique, comme si Jean-Marc écrivait qu'il était « à la rive, au bord, à la limite ». Trois fois pour trois adieux, trois avertissements. Le mot devenait alors un cri métaphorique, celui d'un homme au bord du gouffre. La presse, flairant le dramatique, s'empara de cette interprétation. Des titres surgirent. Le mot « rive », le dernier cri de Jean-Marc. Mais les enquêteurs restaient prudents. Derrière le lyrisme journalistique, il leur fallait des faits. Ils poursuivirent leur recoupement et découvrirent que le même mot apparaissait dans un autre dossier, celui du comptable Pierre Lambert. Dans ses notes personnelles, exhumées après sa disparition, une phrase inachevée disait « Rendez-vous rive, ND... » Était-ce une coïncidence ? Ou la preuve que plusieurs victimes avaient été happées par le même lieu, le même piège ? L'ombre du réseau Mantini se faisait plus insistante. Des documents d'Interpol mentionnaient ses liens avec des sociétés françaises dans les années 90, notamment dans le domaine du transport fluvial. Les rives des fleuves, encore elles, des quais, des entrepôts, des barges discrètes où tout pouvait transiter. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner que les disparus avaient été engloutis dans cette mécanique et que leurs objets personnels, bagues, montres, chevalières, avaient été laissés en arrière comme des fragments de mémoire refusant l'oubli. Le fils de Jean-Marc, dans une interview télévisée, dit une phrase qui frappa les esprits. « Je crois que mon père savait. Et je crois que sa bague, ce n'est pas seulement un souvenir. C'est un testament. » Son regard, dur, accusateur, donnait à l'affaire une dimension presque mythique. Le bijou devenait une relique sacrée, un cri silencieux venu d'outre-tombe. Mais au sein de la cellule d'enquête, une autre hypothèse, plus sombre, se murmurait. Et si la bague n'avait pas été laissée par Jean-Marc, ni par ses bourreaux, mais par quelqu'un de proche ? Quelqu'un qui, pendant des années, avait gardé ce secret, avant de céder à la tentation de le relâcher ? Un frère, un ami, peut-être même sa femme. Après tout, l'objet avait été retrouvé dans le grenier familial. Qui pouvait garantir qu'il y avait été placé en 1995 et non 10 ans plus tard ? Cette suspicion glaça l'équipe, car elle réintroduisait le doute dans le cercle intime. Et si la disparition de Jean-Marc n'était pas seulement l'œuvre d'un réseau criminel, mais aussi le résultat d'une trahison familiale, l'idée brutale déchirait le cœur de son fils. Mais les enquêteurs savaient qu'ils devaient envisager toutes les pistes. Car dans les affaires de disparition, le plus proche peut être l'ennemi. Ainsi, 25 ans après, l'affaire Delorme oscillait entre deux mondes, celui des réseaux clandestins, tapis dans l'ombre des rives, et celui des secrets familiaux, enfouis dans un grenier. Et au centre, une bague, petite et lourde, qui continuait de hanter tous ceux qui la contemplaient. Les soupçons, une fois semés, ne cessent de croître. Lorsqu'un enquêteur prononça à voix basse la possibilité d'une complicité interne, un silence glacé s'abattit sur la cellule. car cela signifiait que l'affaire Delorme n'était peut-être pas uniquement une affaire de réseaux internationaux, mais aussi une tragédie familiale. L'hypothèse fit l'effet d'une fissure. Et si dans l'intimité du foyer, quelqu'un avait su, avait vu, ou pire encore, avait participé, les enquêteurs convoquèrent de nouveau Isabelle, l'épouse. Son visage fatigué semblait porter 25 ans de deuil silencieux. Lorsqu'on l'interrogea sur la bague, elle jura encore qu'elle ne l'avait jamais revue avant que son fils ne la découvre dans le grenier. Mais son hésitation, un battement de paupières trop long, attira l'attention. L'un des policiers nota « Elle semble retenir quelque chose. » Était-ce de la peur? De la honte? Ou simplement la lassitude de devoir répéter toujours la même histoire? Le fils, lui, refusait de croire à une culpabilité maternelle. Mais il s'interrogeait, comment la valise avait-elle pu rester invisible pendant un quart de siècle? Lui-même avait exploré ce grenier dans son adolescence, cherchant des jouets oubliés, et il n'avait jamais vu cette malle de cuir. « Quelqu'un l'a mise là après », affirma-t-il. « Mais qui ?» Les enquêteurs élargirent alors leurs recherches aux proches. Un frère de Jean-Marc, quelques cousins, des amis de longue date. Parmi eux, un nom revint, celui de Michel, le frère cadet, disparu de la circulation peu après 1995, parti vivre à l'étranger, officiellement pour affaires. Les policiers retrouvèrent sa trace en Espagne, où il menait une existence discrète. Convoqué, il admit avoir gardé des contacts avec Jean-Marc jusqu'à la veille de sa disparition. Mais lorsqu'on lui demanda s'il connaissait la valise, il se figea. « Non, je n'ai jamais rien vu, » dit-il. Mais sa voix tremblait. Les policiers sentirent une faille. Ils fouillèrent dans le passé de Michel et découvrirent qu'il avait lui aussi travaillé brièvement dans une société liée au même circuit d'import-export. Était-il l'intermédiaire qui avait introduit son frère dans cette toile criminelle? Était-il celui qui, rongé par la culpabilité, avait finalement déposé la valise dans le grenier comme une confession muette? Les ramifications criminelles, elles, se précisaient. Le nom de Vittorio Mancini apparaissait de plus en plus, associé à des dossiers d'Interpol sur le trafic d'armes dans les Balkans. Dans plusieurs notes, on retrouvait la mention d'intermédiaires français chargés de faciliter la circulation des cargaisons. Le Rhône et la Saône, avec leurs ports fluviaux, étaient des artères idéales pour ces activités clandestines. Jean-Marc, employé administratif, avait peut-être découvert un document compromettant. Une livraison dissimulée dans la paperasse quotidienne, assez pour signer sa condamnation. Mais alors, pourquoi la bague? Pourquoi ce détail, presque théâtral, laissé derrière? Certains enquêteurs y voyaient une mise en scène, un signe volontaire, une manière pour les criminels de dire « nous avons le pouvoir de tout effacer, mais nous laissons un souvenir, pour rappeler que c'est nous ». Dans d'autres affaires liées à la criminalité organisée, des objets personnels avaient en effet été retrouvés, comme des signatures obscures, des stigmates de domination. Le rapprochement est avec l'affaire Lambert, le comptable disparu en 1996, renforçait cette hypothèse. La montre gravée retrouvée des années plus tard pouvait avoir eu la même fonction, un signal. Une trace suffisante pour hanter les proches, mais pas assez pour condamner les coupables, une stratégie de la peur. Destiné à laisser planer l'ombre du réseau sans jamais l'exposer totalement. Pourtant, une autre lecture persistait. Et si ces objets n'avaient pas été laissés par les bourreaux, mais par des complices repentis? Quelqu'un, à l'intérieur du système, incapable de supporter le silence, aurait pu placer ces indices pour qu'un jour la vérité ressurgisse. Dans ce cas, la bague de Jean-Marc n'était pas une provocation, mais un appel à l'aide différée. Les tensions montaient au sein de la famille. Isabelle, usée, supportait mal les insinuations. Elle se réfugiait dans le mutisme, serrant la bague autour de son cou comme pour se protéger. Son fils, au contraire, voulait savoir, quitte à briser, ce qui restait de cohésion familiale. « Je préfère une vérité terrible qu'un mensonge éternel », déclara-t-il aux enquêteurs. Sa sœur, plus discrète, refusait de parler aux médias, mais son silence lourd semblait contenir une vérité qu'elle n'osait dire. La cellule d'enquête, consciente de marcher sur une ligne fine, décida d'explorer plus loin les archives internationales. Des recoupements révélèrent que d'autres disparitions avaient eu lieu dans des contextes similaires, en Italie, en Suisse, en Espagne. Partout, des employés modestes happés par les mailles invisibles du crime organisé. Et partout, des objets personnels réapparus tardivement. Le puzzle prenait une ampleur européenne. Mais les preuves tangibles manquaient toujours. Les criminels avaient effacé les corps, les traces, les témoins. Restait cette bague, ce mot « rouve », ces papiers jaunis, des fragments qui semblaient crier, mais dont le sens restait obscur. Les enquêteurs savaient qu'ils approchaient du cœur du mystère, mais que ce cœur était empoisonné. Un soir, alors qu'ils feuilletaient une dernière fois les notes retrouvées dans la valise, un policier remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu. Au dos d'une facture, une petite tache d'encre formait comme une initiale, un M tracé à la hâte, presque invisible, comme Mancini, M comme Michel, le frère. L'ambiguïté était totale, insoutenable. Était-ce une dénonciation ultime, griffonnée dans la précipitation, ou une coïncidence de plus, destinée à égarer ceux qui chercheraient la vérité? Ce M ajoutait une strate de mystère supplémentaire, comme si l'affaire refusait obstinément d'offrir une résolution claire. Car parfois, dans les cold cases, la vérité n'est pas un point lumineux au bout du tunnel. C'est une ombre qui se précise, mais ne cesse jamais d'être ombre.